remercie aux organisateurs de la conférence. Il est clair que les événements du 11 septembre ont radicalement transformé plusieurs aspects juridiques et politiques, tant au niveau national qu'international. La communauté internationale cherche tant bien que mal à réprimer, à prévenir le terrorisme par tout un éventail de moyens. Bon, on sait qu'une des options qui s'offre à nous est d'envahir l'Afghanistan. Mais à part cette option extrême, il existe toute une multiplicité de régimes complémentaires pouvant aider à contrer le terrorisme, parmi lesquels figure le droit pénal international et qui s'avère une option attrayante depuis l'avènement de la Cour pénale internationale. Or, quoique fondamental en droit international, le droit de la responsabilité des États se trouve souvent éclipsé des débats juridiques et je crois qu'il peut contribuer d'importants apports dans la lutte contre le terrorisme. Son but premier est donc de responsabiliser les États à mieux obtempérer à leurs obligations en matière de terrorisme, sans toutefois chercher à remplacer ou à supplanter les autres régimes qui demeurent, je le répète, complémentaires. Et je crois que cette question devient particulièrement pertinente quand on pense au fait que l'Iran ait récemment fourni des missiles et d'autres armes à des factions de Hezbollah dans ses attaques contre Israël, ou encore que le gouvernement taliban ait permis à des membres d'Al-Qaïda de se réfugier sur son territoire avant les attentats du 11 septembre. Donc, dans ces scénarios factuels difficiles où la justice pénale internationale se trouve souvent court-circuitée à cause de l'absence même des terroristes soupçonnés, je crois qu'il faut se demander comment assurer la responsabilité des gouvernements impliqués de sorte à éviter l'impunité et à prévenir le terrorisme. Donc, j'aborderai donc deux points centraux. Premièrement, j'aimerais brièvement souligner l'émergence de l'obligation de prévention du terrorisme en droit international et brosser un tableau de la problématique à travers quelques exemples factuels. Et en bout de ligne, j'identifierai quelques recommandations visant à étoffer le droit de la responsabilité des États face au terrorisme. Donc, d'emblée, il est important de noter que dans la foulée du 11 septembre, la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies est venue imposer une obligation catégorique de prévention du terrorisme à tous les États, une obligation qui est vue comme un véritable corollaire de la souveraineté. Et quoique les intervenants s'entendent tous sur l'existence de l'obligation et sur le fait qu'elle doit être mise en œuvre par tout moyen nécessaire, la communauté internationale cherche encore à insuffler une certaine vie à cette obligation, une certaine force, de sorte à ce qu'elle devienne contraignante et efficace. Aussi, dans ce contexte-ci, il est important de souligner que la Commission du droit international, en 2001, a adopté une série d'articles sur la responsabilité des États qui stipule que lorsqu'une une obligation primaire de droit international est violée, donc aujourd'hui pour nos fins, lorsqu'un État manque à son obligation de prévention du terrorisme, le droit international déclenche l'application de règles secondaires de responsabilité qui se traduisent par une panoplie de conséquences juridiques en droit interne, on penserait à la restitution ou à la compensation d'un préjudice, par exemple. Donc, il y a ce régime, ce corpus de règles-là qui est un peu la toile de fond de l'argument. Donc, reprenons l'exemple du Hezbollah invoqué plus haut. Les faits nous révèlent que l'Iran a financé, armé, contrôlé, entraîné certaines factions d'Hezbollah en prévision de leurs attaques contre Israël. Donc, selon les faits accessibles, le gouvernement de Téhéran a clairement fourni directives et instructions à ce groupe dans la perpétration de ces attaques. Et dans ce cas d'espèce, donc, la responsabilité de l'Iran pourrait être clairement engagée en vertu de l'article 8 de la Commission du droit international qui précise, et je lis, que le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes est considéré comme un fait de l'État d'après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État. Donc, ce genre de scénario relève de ce que j'ai classifié de responsabilité directe, soit lorsque l'État fournit un soutien direct ou actif à des particuliers lors de la perpétration d'un fait internationalement illicite. Donc, le fait illicite peut être interprété comme émanant de l'État lui-même, ou du moins l'État peut être vu comme étant complice dans la perpétration de l'acte en question. Mais imaginons pour un instant un second scénario où l'Iran ne fournit seulement que des armes et d'autres soutiens militaires à Hezbollah sans diriger ou orienter ses opérations terroristes ou paramilitaires contre Israël. Donc, à part l'appui financier et militaire, le groupe est complètement indépendant de l'appareil gouvernemental iranien, tout en étant doté d'une ligne d'autorité et d'une hiérarchie de commandement entièrement distincte. Donc, déjà, on voit que les assises juridiques liées à l'attribution du fait illicite à l'État, telles que prescrites par la Commission de droit international, commencent à s'estomper un peu. En l'espèce, on ne peut certainement pas prétendre que le groupe en question suivait les directives ou les instructions de l'Iran ou encore que les terroristes se trouvaient assujettis au contrôle, notion très compliquée, très complexe, entre autres, le contrôle de l'État, très ambigu. Donc, il va sans dire que l'inadéquation de ces règles classiques de responsabilité a poussé certains commentateurs, et moi-même également dans ma thèse, à revendiquer l'adoption de nouveaux standards juridiques s'adaptant mieux aux circonstances changeantes du terrorisme. Mais compliquons un peu la donne avec un troisième scénario. Imaginons qu'un gouvernement, le Taliban par exemple, qui ne fournit aucun soutien direct à une organisation terroriste et en ne lui offrant que la possibilité de s'abriter ou de se réfugier sur son territoire avant ou après la perpétration d'actes terroristes contre un autre État. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un changement au niveau, au niveau factuel et nous ne sommes plus confrontés au paradigme classique de la responsabilité directe, où l'essentiel de l'analyse pivotait sur l'acte illicite lui-même, commis par des particuliers, mais pouvant néanmoins être attribué à l'État de par sa complicité ou sa participation à l'un des maillons de la chaîne d'événements. Ce dernier scénario, donc le cas du Taliban par exemple, je crois relève plus d'un nouveau paradigme de responsabilité indirecte et se penche plutôt sur le comportement réel et fautif de l'État, soit par sa négligence au niveau de la prévention ou par son manquement à l'obligation de diligence qu'il a en droit international coutumier. Et à mon sens, cette évolution vers un droit de la responsabilité indirecte est corroboré par la pratique récente du Conseil de sécurité qui relie souvent justement l'obligation de prévention du terrorisme au devoir de tous les États de ne pas héberger ou soutenir des terroristes sur leur territoire. Et je crois que cette formule reflète certainement mieux la réalité actuelle. Donc, bref, à l'avenir, on ne parlera pas de participation directe à l'acte terroriste par l'État, mais bien d'inaction gouvernementale lorsqu'il y avait un devoir d'agir ou d'intervenir, qu'elle soit motivée par de la complaisance, de la négligence ou de l'aveuglement volontaire. Donc, en conclusion de la première partie, les articles auxquels j'ai fait allusion sur la responsabilité semblent avoir été conçus pour des arrangements plus traditionnels de soutien étatique direct à l'endroit d'individus, de par justement leur insistance sur les notions de contrôle et d'interdépendance, qui est un fardeau assez onéreux, merci, à prouver en droit international. Donc, passons maintenant à la deuxième partie de la présentation. Je pense donc que l'efficacité du système de responsabilité des États dépendra dans une large mesure de la façon dont nous conceptualisons l'obligation de prévention du terrorisme. Il faut se rappeler que nous ne parlons pas de n'importe quel type d'obligation en droit international, contrairement à des violations d'obligations conventionnelles, par exemple. L'essence même de l'obligation de prévention du terrorisme est de contrecarrer les attaques terroristes, et sa violation entraîne certainement plus que des répercussions financières. Une fois les attaques portées, l'essence même de l'obligation se trouve contrée. Donc, je crois que les enjeux inhérents sont manifestement plus importants puisqu'on vise à sauvegarder des vies humaines et à prévenir des conséquences dévastatrices, ce qui pourrait justifier un système de responsabilité plus onéreux. Donc, en recherchant un modèle de solution à ce genre de problème, Il est utile de noter que la responsabilité des États est un domaine propice pour les importations et analogies tirées du droit interne parce qu'elle chevauche simultanément le domaine des délits civils internationaux et des obligations du droit des obligations internationales. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence que malgré ça, l'importation des notions juridiques est quand même fortement limitée au niveau de la responsabilité des États. Par exemple, dans le contexte ici, la transposition dans le débat de la notion de common law, du efficient breach doctrine, par exemple, engendrerait des résultats pervers parce qu'un État pourrait arbitrairement décider s'il est avantageux de violer son obligation en décidant, par exemple, de ne pas injecter suffisamment de fonds dans sa sécurité frontalière parce que ses services de renseignement ont conclu qu'une attaque potentielle ne mettrait en péril que quelques vies. Donc, c'est vraiment un exercice très dangereux. Mais cela étant dit, je vais quand même faire une petite importation tirée du droit interne, car je crois que c'est quand même utile comme exercice. Et toujours en empruntant du droit interne, cette fois puisant dans la logique de responsabilité stricte qui sous-tend le droit de la responsabilité des fabricants au Canada et aux États-Unis. Je pense qu'une solution possible au problème serait d'instaurer un système de responsabilité stricte en deux étapes qui donnerait la possibilité à l'État défaillant de s'exculper ex post facto ou au du moins de soulever des défenses à l'encontre de sa responsabilité. Donc, en d'autres termes, ce que je propose, c'est que dès qu'une attaque est portée à partir du territoire d'un État, elle déclenche une présomption prima facie de responsabilité indirecte et par surcroît un transfert du fardeau de la preuve contre l'État fautif. Donc, l'obligation de prévention est donc conceptualisée sur une échelle variable afin de s'adapter aux circonstances de l'espèce. À la seconde étape de l'analyse, nous pouvons donc examiner ce que l'État a fait dans les faits pour prévenir l'attaque terroriste afin de diminuer sa responsabilité ou de carrément écarter ou réfuter la présomption qui pèse contre lui. Donc, à cette étape, c'est-à-dire à la deuxième étape, plusieurs considérations viendront peser dans la balance et atténuer la responsabilité de l'État en question, notamment si ce dernier est incapable de prévenir la menace terroriste, mais accepte des solutions alternatives de répression du terrorisme, telles la présence de forces militaires ou policières étrangères sur son territoire. Et j'en passe, c'est peut-être un cas qui s'appliquait au Liban, parce qu'on sait que le Liban avait perdu le contrôle de la portion sud de son territoire dans le scénario Hezbollah. Donc, dans ce cas-là, si le Liban avait accepté des modes alternatifs de répression, il aurait pu, du même fait, diminuer ou atténuer sa responsabilité sous ce modèle. Bref, comme le fabricant qui est mieux placé pour connaître son produit que le consommateur crédule dans les mains duquel la bouteille de Coke explose, l'État, je crois, est mieux situé pour savoir ce qui se passe sur son territoire et pour prévenir toute attaque y émanant que la victime innocente située dans un autre territoire. Je sais que ça peut être un peu impopulaire ou un peu controversé, mais bon, c'est quand même une profession qui trouve des assises dans la jurisprudence internationale. On peut penser au jugement, au motif concordant du juge Alvarez dans l'affaire du détroit de Corfou, où il dit que chaque État a une obligation de savoir ce qui se passe sur son territoire, et si l'État prétend qu'il ne savait pas, il y a un renversement du fardeau de la preuve, et il est tenu de prouver pourquoi il n'avait pas les renseignements en question. Donc, en conclusion, ce modèle qui est axé sur l'attribution automatique des actes terroristes à l'État met tous les États sur un pied d'égalité, au moins sur une base préliminaire, et vise un peu à neutraliser les relations souvent asymétriques existant entre les États au niveau international. Puisqu'il n'existe aucun recours judiciaire en droit international pour faire valoir la responsabilité des États, c'est complètement laissé à la volonté unilatérale des États. Je crois donc que le mode sine qua non de mise en œuvre de la responsabilité des États réside dans le concept de réciprocité. Donc, bref, les États optent en pair au droit international parce qu'ils s'attendent à la même chose des autres États. Donc, en imposant des règles uniformes et générales applicables à la violation des obligations de prévention du terrorisme, telles que dans le modèle proposé, nous venons donc régulariser quelque peu les expectatives de comportements gouvernementaux et mettre l'accent clairement sur la prévention. Alors, comme on le sait, comme tout le monde le sait ici, il y a eu beaucoup d'unilatéralisme jusqu'à présent dans la lutte contre le terrorisme. Donc, en bout de ligne, l'objectif du modèle proposé est donc de promouvoir la coopération transnationale et de rehausser le multilatéralisme dans ce contexte, en acceptant toutefois que certains États doivent parfois sacrifier leur souveraineté pour combattre le terrorisme plus efficacement. Je vous remercie de votre attention.